Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Patrick Simon au micro, comme d'habitude. Alors, ce soir, nous allons commencer par l'émission en vous parlant d'un roman, et d'un roman russe qui s'appelle Zuleïka ouvre les yeux. Alors, de l'enfer soviétique, on connaît bien maintenant, et grâce à Solzhenitsyn, les histoires du goulag. Et on connaît aussi, grâce à Pasternak, les histoires individuelles d'amour brisé. C'est le docteur Jivago. Et donc, l'archipel du goulag, une journée d'Ivan Denisovitch, tout ça avait montré les horreurs des camps de concentration en Russie. On connaît aussi les histoires d'espionnage, comme l'affaire Farwell, puisqu'on en a fait un feuilleton, et ça a été raconté en plusieurs épisodes sur cette antenne. Mais on ne connaît que très peu, ou pas du tout, la déportation des koulaks. Le phénomène de découlakisation, hein, c'est-à-dire le massacre et le vol de la propriété des petits paysans, leur envoi dans des camps de travail, leur lente agonie perpétrée par le régime communiste. Tout ça, je pense, amis auditeurs, que vous ne devez pas trop connaître. Et c'est pourquoi j'ai invité le professeur Georges Niva, puisqu'il a rédigé la postface de ce roman, Zuleïka ouvre les yeux. L'auteur du roman est une tatare. Vous savez, les tatares sont une particularité de la population russe, mais ils ne sont pas russes, en fait. Donc, l'auteur s'appelle Gougel Yakina. Et j'ai invité Georges Niva, professeur émérite à l'Université de Genève, car je crois, monsieur le professeur, vous avez même connu, je crois, Solzhenitsyn, si je ne m'abuse, et vous avez écrit la postface de ce roman. Alors, est-ce que vous pourriez, cher monsieur, nous introduire à cette épopée et essayer de nous résumer un peu l'action qui s'y passe ? Ah. Allô ? Ah, nous n'arrivons pas à joindre le professeur, on va essayer de le joindre, et on fait une pause musicale pour essayer de joindre monsieur Niva.
Шорохи, все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали вы. Подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится, слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. свет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты.
Alors, nous avons Georges Niva, je pense. Est-ce qu'on vous entend ?
Je vous entends, bonjour.
Ah, bonsoir, monsieur le professeur. Donc, je viens de présenter le roman Zuleika, Ouvre les yeux, là, qui raconte un peu la déportation des koulaks, la découlakisation. Les Français connaissent maintenant l'horreur du goulag, connaissent l'enfer soviétique par Pasternak, les histoires d'amour brisées, le docteur Zhivago, mais la découlakisation, ils connaissent pas bien. Et donc j'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, est-ce que vous pourriez nous résumer un peu ce qui se passe dans ce beau roman Zuleika ouvre les yeux dont vous avez écrit la postface.
Écoutez, il faut commencer par ceci. Ce roman n'est pas écrit par un témoin, parce que Gisèle Yarina n'a pas été au goulag, n'a pas été découlakisée. Ça fait partie, si vous voulez, des romans un peu témoin-fiction qu'il y a sur les camps de concentration allemands, nazis, qu'il y a également sur beaucoup d'événements terribles racontés à travers une fiction.
Oui, c'est ça. C'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire qui se fonde quand même sur des faits véridiques incontestables.
Écoutez, elle se fonde avant tout, et ça c'est la première partie de cet roman qui m'a frappé de façon extraordinaire quand je l'ai pris en main, c'était il y a 9-10 ans, c'est le récit de sa grand-mère. Dans cette grand-mère, je suppose qu'il n'y aurait pas l'écrivaine, il y aurait la scénariste, mais il n'y aurait sans doute pas l'écrivaine Gisèle Yarina. Cette grand-mère a vécu la découlakisation. Elle la raconte et elle était tatare. Elle parle plutôt le tatare que le russe. Tous les personnages en tatarie, représentés par Yarina, passent du tatare au russe, mais... Zuleika connaît assez bien le russe et puis va l'apprendre évidemment pendant la déportation parce que là tout le monde parle russe.
Oui, parce qu'il faut préciser que cette déportation a consisté à emmener d'immenses populations de koulaks, de paysans, donc petits paysans propriétaires, dans un train, dans des wagons à bestiaux, comme les nazis emmenaient les juifs dans les wagons à bestiaux à Auschwitz. Mais là, ça durait des mois et des mois. C'est ce que raconte un peu le roman, non ?
Pour moi, l'essentiel du roman, sa poésie intrinsèque, c'est la première partie. Parce que elle montre cette jeune Zuleika qui a été forcée d'épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle, assez violent, mais qui l'aime quand même. Une belle-mère épouvantable qui devient aveugle.
Aveugle et sourde. Enfin, oui.
Et alors, en somme, il cache du grain. Parce qu'on est en train d'enlever même toutes les semences, pas seulement le grain pour nourrir, mais la semence pour pouvoir semer la saison suivante. Et l'idée du mari de Zuleika, c'est d'aller le cacher dans un des cercueils de leurs quatre filles. Parce que Zuleika a eu quatre filles, mais
ils sont toutes mortes.
Quatre fils sont mortes. Et ils vont dans la forêt... Il le cache.
Mais donc, il le cache pour éviter que les autorités mettent la main dessus, puisqu'ils sont régulièrement volés, spoliés par par ces
oui,
jeux.
Oui. Ça, si vous voulez, c'est à travers toute l'URSS.
Oui.
C'est en Tatarie comme absolument partout. D'un
c'est ça.
Bout à l'autre de la... Vous savez, les textes là-dessus sont des milliers et des milliers. Et même en traduction, il y en a quand même quelques centaines.
Oui.
En français, en anglais, en allemand, en italien. Simplement, ça a été, c'est moins frappant que l'idée du goulag. Si vous voulez, nous avons quand même une réception extrêmement limitée des malheurs d'autrui, d'une façon générale, quand ce ne sont pas nos propres malheurs, et en particulier du malheur de cette population russe. Alors, Kulak, d'ailleurs, c'était un terme qui voulait dire un bon paysan.
Oui, un bon paysan, absolument.
Au début du XXe siècle.
Et avec les communistes, c'est devenu un accapareur, un ennemi du peuple.
Voilà, un accapareur. Et donc, on doit lui enlever sa ferme, lui enlever ses bestiaux, tout lui enlever, et il est déporté.
C'est ça. Et alors, il traverse presque toute la Russie.
Absolument, absolument. Et par exemple, un des grands poètes... qui a édité la journée d'Ivan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn dans sa revue Novy Mir, Twardovsky. Twardovsky était au comité central. Eh bien, ses parents avaient été découlatisés et emmenés en Sibérie. Tout le monde dans la Russie soviétique avait des parents au goulag. Presque, ça n'existait presque pas, si vous voulez, une famille qui n'est pas un parent quelque part au goulag.
Oui.
Mais là, ce qui est particulier, c'est que ça se passe en Tatarie. Moi,
oui.
Ça m'avait beaucoup frappé parce que j'étais allé en Tatarie.
Ah bon ?
Je connais Kazan.
Ah oui, Kazan, c'est la capitale, oui.
Oui, je suis allé dans l'ancienne capitale de la Horde d'Or bulgare que l'actuelle République du Tatarstan transforme en une sorte d'immense musée. J'avais des amis tatars, et en particulier l'épouse du dissident Amalric, Güzel Amalric.
Ah oui, oui, oui. Mais alors, si vous voulez, comme on n'a pas beaucoup de temps, monsieur le professeur, je voulais simplement souligner quelques aspects. Ce roman a quelque chose d'assez original, je trouve. C'est que les faits qui se produisent autour de Léronine et la Zuleïka, ce sont des faits épouvantables, durs, inhumains, sans pitié. Bon, mais curieusement, ils sont vus par l'héroïne non pas favorablement, on ne peut pas aller jusque-là, mais plutôt sous un angle positif, c'est-à-dire que le mari qui la traite mal et cruellement, elle le décrit comme un bon mari. Le commissaire politique Ignatov, qui est meurtrier de son mari, qui est donc un massacreur au début, finalement il va les sauver à la fin, enfin il va la sauver... Et donc, on a l'impression que dans cette épouvantable atmosphère, elle est perçue par Zuleïka pas de façon entièrement négative, malgré les persécutions, malgré la faim, le convoyage dans le train à bestiaux, le froid. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais il y a toujours un espoir, un appétit de vivre qui surnage. Et c'est pourquoi on s'attache un peu, enfin moi je me suis attaché à elle comme un naufragé à un radeau, une sorte de planche de salut. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voyez les choses différemment ?
Oui, je suis d'accord, évidemment, c'est la vie qui continue. Maintenant, dire que c'est tout à fait convaincant, je ne le dirai pas, dans les quatre parties. Si vous voulez, pour moi, le roman vers la fin... dévie vers une sorte de optimisme peu compréhensible.
Eh oui.
Le mariage avec le bourreau,
oui, c'est
le
ça.
Bourreau qui adopte le fils dont elle a accouché précisément pendant le long voyage terrible dans les wagons à bestiaux qu'on appelle en russe les stolypines, tout cela m'a moins convaincu, mais il n'empêche que ça reste un texte extrêmement superbe, je dirais, par cette espèce de porte d'entrée dans l'horreur,
oui,
qui est la découlakisation dans le Tatarstan. Et ça, évidemment, on ne l'avait pas. Ça a été décrit en Lituanie, en Lettonie, vous savez, un peu
oui,
partout.
Oui,
tout
oui,
le monde avait. Mais pour le Tatarstan, à ma connaissance, Güzel Yakhina est la première à le faire dans un roman qui est fabriqué, qui n'est pas,
oui,
disons, celui d'un témoignage. Ce n'est pas un témoignage.
Oui, 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 tout à fait. Alors, il y a plusieurs personnages dans ce roman, en dehors de l'héroïne, et il y en a un qui m'est très antipathique, c'est celui qui s'appelle Gourelov, qui est le truand mouchard, là, chargé de surveiller les koulaks, mais qui finalement sera traité comme eux. Et c'est là qu'on voit que sous les communistes et même sous Lénine, c'est comme sous les nazis, ils ont tous ces régimes totalitaires utilisent les gangsters, les truands, utilisent la pègre à leur service. D'ailleurs, dans votre postface, vous dites Lénine donne le pouvoir local aux éléments les plus dépravés de la campagne, les incendiaires de ferme, c'est ce que vous écrivez, je crois.
Oui.
Donc, ce Gourelov, il est quand même affreux, il est très, comment dirais-je, opportuniste, mais il est là en permanence à surveiller les autres, quoi. C'est le mouchard de service.
Oui, mais vous savez, ça c'est décrit dans le plus grand, le plus beau de textes et le plus immense, une sorte d'Iliade du Goulag, c'est l'archipel du Goulag,
ah oui,
d'Alexandre Solzhenitsyn,
ah oui,
où tous ces phénomènes sont indiqués de façon extraordinaire. Et ton propre témoignage, puisqu'il y a été, et ceux qui l'ont aidé, plus de 200 personnes qui, au début de la parution de l'archipel, étaient anonymes, et puis dont il a donné les noms ensuite.
Oui.
Gorilov, évidemment, c'est la pègre.
Mais...
évidemment, partout, mais vous savez, la pègre dans toutes les prisons du monde... a tendance à prendre le pouvoir à l'intérieur de la prison.
C'est ça.
Et alors ce Gorelov, il revient, il est tout simplement un officier du KGB lorsqu'il revient. Et c'est un tout petit épisode à la fin.
Oui, oui, oui.
Il prend le pouvoir et il dit au mari de Zuleyra, qui a été à la fois leur garde-chaume et en même temps leur sauveur. Cette espèce de extraordinaire métamorphose de l'homme humain, Güzel Yakhina le montre assez bien. Là, il y a un livre fameux de Bettelheim sur
Bruno Bettelheim, vous dites?
Oui, le mutisme des victimes.
Ah oui.
Le dialogue de la victime et du bourreau est un dialogue assez extraordinaire,
ouais,
difficile, et où quelquefois, eh bien, la victime, au fond de sa souffrance, presque c'est d'amour du bourreau.
Oui, c'est le syndrome de Stockholm.
Il y a aussi des textes en serbe qui sont magnifiques à ce sujet.
Oui. Alors justement, parmi les victimes, il y en a un qui, lui, m'est beaucoup plus sympathique que l'horrible Gourelov, c'est le professeur de médecine Laibé. Je prononce
pas. Bien sûr, j'attendais que vous en parliez.
Ben oui, parce que lui, il fait partie des bourgeois éduqués. On se demande ce qu'il vient faire là-dedans avec ses koulaks, là, des bourgeois de Saint-Pétersbourg. Et que je crois que
non, pardon. Il n'est pas de Saint-Pétersbourg, il est à l'université de Kazan. Il est
ah
à
oui.
Kazan.
Oui, pardon.
Il travaille à Kazan.
Mais il n'est pas d'origine saint-pétersbourgeoise, non?
Oui,
oui,
il
voilà.
n'est pas tatar, mais enfin, il a vécu 30 ans à l'université de Kazan, c'est son université.
C'est ça.
Son appartement a été transformé, en appartement communautaire.
Oui, comme beaucoup.
Il y a énormément de monde. L'appartement communautaire, ça fait partie, si vous voulez, de la civilisation soviétique.
C'est ça. Et alors, on les appelle, ces gens-là, on les appelle les gens du passé, si j'ai bien lu. Ce professeur, il devient un peu fou au cours du voyage, mais malgré tout, c'est ça que je trouve attachant, ses réflexes de grand professeur de médecine ont subsisté, même s'il devient un peu fou. Et il y a une scène assez amusante entre l'AIB et le médecin de la troupe communiste du train, qui était un ancien étudiant de l'AIB, et on s'aperçoit de l'irrémédiable déclin de la science médicale en URSS, du fait de la persécution des élites, me semble-t-il. Il y a un dialogue, si vous voulez, entre ce grand professeur un peu fou et le nouveau médecin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette partie.
Oui, c'est pas mal inventé par Güzel Yarina. Mais ce n'est pas un témoignage.
Non.
C'est de la fiction. De même que dans ses romans suivants, elle fait de la fiction. Elle a un mécano avec lequel elle joue, et qui lui permet de recréer les malheurs des Allemands de la Volga, par exemple, dans son deuxième roman. Si vous voulez, on est en face aussi de la description de l'incroyable remue-ménage de la population organisée par Staline, Lénine, suivi par Staline. Un incroyable remue-ménage, parce que vous avez tout le monde, vous avez toutes les nationalités,
oui,
toutes les religions, vous avez Zuleika, ne l'oublions pas, elle est musulmane.
Oui, elle est musulmane, tout à fait, mais elle a une foi sincère et profonde.
Elle a une foi assez simple, elle parle avec Allah, en même temps, elle est païenne, parce que et ça, c'est très bien montré, et ça vient de la grand-mère de Güzel.
Il y a un mélange de paganisme et d'islam, oui, exact, oui. En surface seulement, l'islam.
Oui, c'est difficile à dire. Elle croit aux esprits. Elle va donner aux esprits un peu de la pâte de pomme qu'elle a volée au grenier pour que l'esprit avec qui elle communique, puisse communiquer avec l'esprit qui garde les cimetières, et en particulier ses filles, qu'elles soient protégées par les esprits. Ça, c'est vraiment très réussi.
Oui.
Et je pense que c'est particulièrement réussi parce que c'est vrai, parce que c'est le récit de la grand-mère.
Oui, tout à fait, oui, c'est vrai.
Mais ensuite, c'est décrit pas seulement dans le roman de Güzel Yarina, l'incroyable remue-ménage.
Qu'est-ce que vous appelez le hachoir?
Alors, le hachoir, c'est un peu autre chose. Le remue-ménage pouvait être positif ou négatif.
Oui.
C'est-à-dire que...
Je vois que du négatif. Qu'est-ce que vous voyez de positif à ce remue-ménage?
Parce que ce n'est pas uniquement le goulag.
Oui.
Quiconque était... Il y en a qui s'échappent. Il y en a qui arrivent à être en fuite pendant 10 ans, 15 ans. Et puis surtout, dès que vous craignez quelque chose, vous partez à l'autre bout de l'URSS.
Ah oui, parce que c'est un pays immense, oui.
Où vous partez dans les endroits où on manque de main-d'œuvre, comme par exemple le Donbass, dont on parle aujourd'hui à cause de la guerre. Le Donbass, évidemment, a été peuplé exactement comme l'enclave de Kaliningrad, autrefois Königsberg, par tout le monde. Il y avait un appel de main-d'œuvre.
Oui, oui, je comprends.
Et tout le monde venait là. Et à ce moment-là, bon, on était plus ou moins protégés. Moi, je viens de traduire un grand poète ukrainien, Vassil Stous. Son père était de l'ouest de l'Ukraine. Il est parti dans l'est de l'Ukraine
parce qu'il pouvait travailler.
Pour du travail et pour se cacher un peu.
Oui, oui, oui. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter, parce qu'à la fin du roman, le fils de Zuleika, Youssouf, il est finalement sauvé grâce au faux passeport que lui a fabriqué le tortionnaire, enfin le... comment il s'appelle
le nouveau mari, qui est l'assassin
c'est
de l'ancien mari.
C'est ça. Bon, eh bien, celui-là, c'est vraiment l'autorité communiste dans toute sa splendeur, puisqu'il a tué le mari, le premier mari, disons. Et finalement, celui-là, qui est le... Je ne sais plus son nom, mais enfin, ça me reviendra. Il a compris que ce régime, c'est l'enfer. Et donc, il en vient lui-même à fabriquer un faux passeport pour sauver le fils Youssouf de cet enfer. Alors, est-ce que ça ne préfigure pas... Alors, vous me direz que je prends peut-être mes désirs pour des réalités, mais est-ce que ça ne préfigure pas la chute qui viendra bien plus tard, la chute du communisme, en sens que l'élite communiste, les tortionnaires, ceux qui tenaient le pays, ont finalement été persuadés que c'était l'enfer et qu'il fallait en sortir. Je divague, là.
Écoutez, un petit peu, parce que l'élite soviétique n'était pas que des tortionnaires, il ne faut quand même pas exagérer. Et même le KGB n'était pas entièrement des tortionnaires, mais il y avait des tortionnaires et il y en avait partout. L'histoire, si vous voulez, de l'assassin du mari qui devient le second mari de Zuleika, parce qu'ils ont une histoire d'amour, ça ne me convainc pas beaucoup, si vous voulez. C'est quand même fabriqué.
Oui, moi non plus.
C'est fabriqué fictionnellement. L'histoire de Youssouf, je crois.
Youssouf, le fils.
Qui est le fils du mari assassiné. Et c'est le nouveau mari qui, par amour pour Zuleika, sauve ce fils. Bon, ça fait partie du roman. Personnellement, là, si vous voulez, j'ai décroché du roman. Enfin, c'est pas décroché, j'ai lu jusqu'au bout, naturellement.
Oui, oui.
Mais ça m'a paru un peu factice. Happy end, si vous voulez, un happy end.
Oui, mais en même temps, ça indique que peut-être, même quand on a été un meurtrier et un officier dur avec tous ces gens, on peut arriver à finalement essayer de sauver une partie de cela. C'est un peu ce qui s'est passé à la fin. Enfin, je ne sais pas. Je voulais vous poser.
Vous savez, oui, l'assassin du premier mari, il aime Zuleika. Ça n'y voyait pas trop de grande politique.
Oui.
Le moteur, c'est quand même l'amour humain qui peut.
Oui. C'est ça.
Arriver,
oui,
dans des circonstances que l'on n'attend pas du tout.
L'amour humain est plus fort que tout et surpasse tout.
Peut-être.
Oui, mais moi j'aimerais quand même vous poser une question, alors indiscrète, mais vous êtes spécialiste de la Russie. Je n'ai jamais compris, il paraît que les Russes souffrent de ne plus être en Russie, alors que c'est quand même l'enfer, et ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. Alors, vous n'êtes pas russe, mais vous en connaissez beaucoup, et j'ai toujours eu du mal à comprendre ce sentiment. Pour moi, quand on a quitté l'enfer, ben on est au paradis, et on n'a pas envie de retourner en enfer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ?
Ben écoutez, vous êtes quand même un petit peu simpliste dans ce dualisme enfer et paradis,
oui,
parce que nos pays ne sont paradis, les États-Unis d'Amérique en ce moment ne sont pas un paradis.
Pourtant, Anna Arendt, arrivant aux États-Unis depuis l'Allemagne nazie, avait dit « j'avais l'impression d'arriver au paradis ».
Oui,
Anna Arendt.
Ça, d'abord, c'est pas maintenant, c'est quand même il y a très longtemps, et c'était dans l'immense soulagement de la libération.
Ben oui.
Ça n'a pas empêché de retourner vers son professeur, qui est son amant, qui est, comme vous le savez, Heidegger.
Oui, peut-être, mais enfin, bon.
Alors, les Russes sont attachés à la Russie. Bon, il y en a une partie aujourd'hui qui a émigré et qui néanmoins se dit du mal, se sent bien dans nos pays, naturellement. Et comme ils ont du talent, en général, ils se casent bien.
Oui.
Mais
il y en a une partie. Oui.
Ils regrettent, ils vont y aller. C'est-à-dire, ils y retournent, c'est quelques-uns.
Mais c'est curieux quand même. Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça. Ça me fait penser à ce passage de la Bible dans l'Ancien Testament où le peuple hébreu reproche à Moïse de les avoir emmenés dans le désert, reproche la liberté, disait c'était mieux quand on était esclave, on avait des marmites de viande. Et c'est ce à quoi je pense quand je vois ces Russes qui regrettent de ne pas être en Russie. Enfin, vous trouvez que j'exagère, sans doute.
Non, mais vous savez, le peuple hébreu, il est resté 3 générations en Égypte.
Oui.
Et naturellement, il vivait bien en Égypte. D'ailleurs, c'est lui-même qui était allé.
Oui, absolument.
Parce qu'il y avait la famine chez lui.
Oui.
Il a été sauvé de la famine. Thomas Mann a décrit ça magnifiquement.
Sauvé de la famine.
Dans Joseph et ses frères. Je ne vais pas parler
à Joseph,
de Thomas
Mann. Ah, Joseph, oui, magnifique.
Et Thomas Mann peut nous aider à comprendre, parce que Thomas Mann s'est heurté à l'idée, comment peut-on haïr sa patrie?
Ah, oui.
Et il a fini par le dire, il faut haïr ma patrie. Il dit dans une émission, le mieux qui puisse nous arriver, mes chers concitoyens, il était en Californie, mais c'était la BBC qui faisait ses émissions, c'est notre défaite, et notre défaite complète. Naturellement, Thomas Mann a eu du mal à arriver à cette conclusion. Elle est difficile, c'est tout ce qu'on peut dire.
Oui, je comprends. Alors, vous, professeur Niva, vous avez, et vous n'êtes pas russe, mais vous adorez, vous aimez profondément la littérature russe, puisque vous avez enseigné cela. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à cela?
C'est des rencontres. Je n'étais pas du tout dans un milieu russe, mais à Clermont-Ferrand, ma ville natale, j'ai rencontré un russe blanc, un homme charmant, très simple, qui était relieur de livres, qui habitait dans une vieille maison en lave noire du vieux Clermont. Et il avait été pris par Denikin, il avait combattu sans être volontaire. Il est arrivé à Istanbul. Istanbul a été décrit par Mikhail Bulgakov et bien d'autres comme un lieu de souffrance, si vous voulez, où ils n'avaient rien. Ils étaient tous obligés de quémander, de voler. Et alors, lui s'est présenté un cargo comme chauffeur. Il était jeune, il était bon. Donc, chauffeur, vous êtes en bas, vous mettez le charbon dans la chaudière, c'est pas très drôle. Pendant tous les... Ça a duré, je crois, 3 semaines avant qu'il arrive à Marseille. De Marseille, alors, la France manquait énormément de main-d'œuvre et les patrons venaient à Marseille chercher de la main-d'œuvre. Alors lui s'est retrouvé à Clermont-Ferrand, donc c'est par lui. Et puis ensuite, mon professeur à Sorbonne, Pierre Pascal, qui lui a passé 17 ans là-bas, il était un bolchevique. Il était. Il, un catholique bolchevique.
Ah oui, ça voilà. C'est une espèce assez rare, assez curieuse.
Eh bien écoutez, s'il était encore là, il argumenterait avec vous, et il avait changé d'avis.
Hein, oui, oui.
Mais les actes des apôtres nous montrent les premiers chrétiens qui mettent tout en commun.
Oui, mais la grande différence, c'est qu'ils mettent tout en commun volontairement. Et ils ne sont pas obligés par des salopards ou des tortionnaires, moi je maintiens mon terme, à mettre tout en commun. Ils le font volontairement. Ça change tout.
Oui, mais attention, il y a quand même eu pas mal de volontaires pour le communisme de Lénine. Ça a été fabriqué par des tortionnaires ou des gens venus de l'étranger, des fusillés lettons. Non, il y a eu des volontaires enthousiastes.
Oui, mais ils ont changé d'avis, ces volontaires enthousiastes. Au début, ils étaient volontaires enthousiastes, puis après, ils l'ont cessé de l'être, non ?
Pas du tout, pas tous. On peut être enthousiaste pour sa propre destruction. Ça arrive,
mais sauf que ce n'est pas recommandé par le bon Dieu. Oui.
Ça fait partie, si vous voulez, des fondements du fanatisme. Il faut voir qu'il y a... Bon, naturellement, ce Pierre Pascal que moi j'ai connu, qui a été mon maître, dont j'ai été l'ami, avait changé d'avis. Mais chez lui, pour la fête de Saint-Pierre et Paul, il rassemblait ses anciens amis bolcheviques, dont Boris Souvarine, le plus connu de tous, et c'était pour moi une leçon d'histoire.
Je vois. Parce
qu'ils m'ont un peu écrit cela.
Ouais.
Donc l'histoire des totalitarismes est plus compliquée, si vous voulez, que noir et blanc.
Oui, enfin, je vois que nous ne sommes pas du même avis, mais ça n'a pas d'importance. Comme ça, les deux points de vue sont exposés. Je voudrais, pour terminer notre entretien, vous lire un petit extrait, qui, moi, ça me plaît beaucoup. C'est les pensées de Zulaïka, qui se demande, je crois qu'elle est encore dans le train, si... s'il ne serait pas mieux que son enfant, puisqu'elle est enceinte, meure avant de commencer à vivre. Alors voilà ce qu'elle dit. A-t-elle le droit de demander à Allah de laisser à sa fille au moins le temps de commencer à marcher, de faire au moins ses premiers pas avant de quitter ce monde ? Ou est-ce trop exigé ? Dis-le-moi, très haut, ai-je le droit de te demander ceci ? Je n'oserais pas demander plus, mais ceci au moins. Mais une autre pensée sincère. Et si le Tout-Puissant t'entendait et laissait ton enfant faire son premier pas, que ressentiras-tu alors quand tu le perdras ? Ne vaut-il pas mieux qu'il meure tout de suite quand tu n'es pas encore habitué à lui, pas trop attaché ? Souviens-toi comme tu te désespérais après la mort de ta première fille qui a vécu un mois entier sur cette terre. Ce fut moins difficile pour la deuxième qui est morte après deux semaines et encore moins pour la troisième, etc. Et un peu plus loin, oui, oh Allah, quand mon chemin s'achèvera-t-il ? Ne pourrais-tu pas l'interrompre d'un signe de ta main ? Zulaïka a enfoui son visage dans sa pelisse courte qu'elle a posée sur sa terre. Enfin, moi je trouve ça très beau. Ces pensées-là de l'héroïne qui lui viennent et ce dialogue avec Dieu, en somme. Alors là, on est à la moitié, au milieu du roman, c'est peut-être pas ça qui vous plaît le plus.
Ah si !
Si, ça vous plaît.
Ouais. Mais bien entendu. Non, mais vous savez, je ne sais pas si elle avait lu Cioran, Gisèle, mais si vous prenez l'œuvre de cet auteur français, roumain, Cioran, c'est « Pourquoi suis-je ? » Est-ce que c'est un reproche à Dieu ? Je ne t'ai jamais demandé d'être sur cette terre. Je n'ai jamais demandé à mes parents non plus. Et le reproche, bon, Dieu ici, c'est Allah, puisque elle pense à travers la religion musulmane.
Mais c'est ça,
c'est exactement ça. Que signifie ma vie ? Et en particulier, celle que je voulais donner à mes filles, à qui je n'ai rien pu donner. C'est des reproches à Dieu Ça,
oui, c'est des petits reproches qui sont intéressants à suivre, mais en même temps, le professeur Laïbé, là, qui est à côté, il lui dit, oui, le bébé, non, mais qui vous dit ça ? Laïbé, scandalisé, s'assied brusquement, manque de se taper la tête au plafond. N'en croyez rien, dit-il. Vous pensez que son cœur bat déjà ? Il parle de l'enfant, le bébé qui est dans son ventre. Vous pensez que son cœur bat déjà ? Quelle question ! Le professeur est rouge d'indignation. Depuis 2 mois déjà. Donc ça la réconcilie un peu avec le désir de quitter cette vie. Le bébé à l'intérieur de son ventre. C'est pas mal.
C'est pas mal. C'est le milieu du roman, ce dialogue entre elle et le vieux professeur qui est en train de devenir fou d'ailleurs,
oui.
Est une des belles, si vous voulez, tresses de ce roman, où on sent plusieurs tresses de fables, plusieurs fables qui sont tressées les unes avec les autres.
Oui.
Mais, disons, l'épilogue est un petit peu différent. L'épilogue cesse d'être une accusation de Dieu et une admission, une réconciliation avec la vie.
Voilà. Alors c'est ça, que vous n'aimez pas. Moi j'aime bien quand même le happy end. Bien.
Ah non, mais tous les happy ends font toujours plaisir, bien entendu.
Monsieur Niva, je vais être obligé de vous quitter, car nous arrivons au terme de notre entretien, et je vous remercie infiniment pour le témoignage et les explications que vous nous avez données sur ce roman. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs de lire « Zuleïka ouvre les yeux », et je le recommande en tout cas. Merci.
Oui. C'est fait pour ouvrir les yeux du lecteur et pas seulement de Zuleïka.
Voilà, tout à fait. Et je vous remercie et à bientôt peut-être.
Merci.
Au revoir, monsieur le professeur. Allô, alors, nous continuons cette émission. Nous la continuons avec un sujet tout à fait différent. Ça s'appelle Bye Bye Jack Lang. Vous savez, amis auditeurs, la dernière émission, j'avais parlé de ce sketch comique de Thomas Séraphine sur Jack Lang. Et c'était prémonitoire, parce qu'à l'époque où on en parlait, il n'y avait pas eu ce qui s'est produit depuis, à savoir la démission de l'horrible Jack Lang de l'Institut du Monde Arabe. Donc, ce sketch comique dont j'ai fait un petit extrait que je vais vous passer, elle trouve toute son actualité et toute son, sa pertinence. Je l'ai sorti de l'émission de Clémence Oudiakova sur Tocsin, et vous allez pouvoir l'entendre.
L'homme a de quoi subvenir à son train et même à son arrière-train de vie, 9 250 € par mois selon la Cour des comptes pour présider l'IMA. C'est l'acronyme de l'Institut du Monde Arabe. Vous me direz, le président du Pérou, avec Lima pour capitale, touche lui aussi la même somme pour diriger un pays. C'est cohérent.
Ouais.
Alors, invité sur la chaîne Public Sénat, Jack a dit « Il serait anormal que le président d'une haute institution comme celle-là soit sous-payé ». Jack a dit « Manu l'a fait ». Bon, et ça va, et Clémence, 110 000 € pour présider Lima, c'est pas le Pérou non plus. Au cas où vous n'auriez pas compris la première fois, Clémence.
Oui.
C'est
bon,
un
là.
Peu la fin de l'année aussi. Hein.
Oui.
Alors, la retraite, non, les retraites, oui, car Jack, lui, est champion escumul des retraites. Retraite de ministre, député, maire, conseiller d'État. Alors, combien touche-t-il ? 10, 15, 20, 25 000 € par mois ? On ne sait pas. Non, et vous ne le saurez jamais, chers administrés, gueux et curieux, combien ce fossile vivant vous en coûte. Liberté, égalité, obscurité. En 2025, dans notre République exemplaire, demander combien touche un vieillard public est un délit de lèse-macronie. Omerta sur le magot. Solliciter la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Rien à péter. Demander à Bercy, non merci. À la CADA, la Commission d'accès aux documents, nada. Silence radio à la radio. Alors en France, pays qui adore les formulaires CERFA, on est capable de savoir si ton grille-pain est éligible à la prime énergie, mais incapable d'avoir une photographie claire, simple, assumée du cumul salaire et pension d'un homme ayant fait toute et seulement sa carrière dans la fonction publique. Parenthèse littéraire, relisons Molière dans l'Avare. Hein. Harpagon s'accroche à sa cassette, comme Jack à son fauteuil, mais Harpagon, au moins, était avare. Jack, lui, est prodigue avec l'argent des autres. Alors, soyons beaux joueurs, Clémence, et reconnaissons-lui ce talent à Jack. Jack, plus fort que Obiang, hein, 83 ans, le président de Guinée équatoriale, que Paul Biya, 93 ans, au Cameroun, qui aussi s'accroche en clamant « Le peuple a encore besoin de moi !» Alors ça, c'est plutôt la voix de Morgan Freeman. Hein. Bah, vous ne pourrez pas me reprocher d'imiter la voix française d'un blanc, parce que c'est un blanc qui double Morgan Freeman. Non, plus fort, donc. Car Jack, lui, oui, c'est Benoît Alleman. C'est un très, très bon doubleur. Bon, voilà, il parle comme ça, bien sûr. Alors, Jack, lui, n'a pas besoin du peuple, ni même de truquer les élections, parce que Macron le reconduit par décret, comme on renouvelle un abonnement Netflix pour une grand-mère. Alors, est-ce de sa faute si le président Macron est gérontophile ?
Vous voulez dire que Macron aime les vieux ?
Ah non, mais ça, c'est pas moi qui le dis, Clémence. Enfin, là, tout de suite, si, mais la formule Macron dragueur de vieux, elle est attribuée à Julien Drey. Hein. Alors, attention, Clémence, pas tous les vieux, quand même, hein, seulement s'ils sont riches et ou influents. Hein. Mmh. Henri Herman, Pierre Berger, Brigitte, alors cela, il les collectionne hein, comme des timbres rares, parce que Manu, quand il veut du frais, du jeune, du beau, et de préférence du noir ou du maghrébin, il sort les mignons, hein, Benalla, les danseurs du perron de l'Élysée, Bilal Hassani, qu'il fait poser avec Jacques devant Lima, justement, Lima à Paris. Hein. Bref, vous êtes déjà sûrement bien assez écœuré par toutes ces agapes de fin d'année pour que j'en rajoutasse une tasse. Mmh. Oui, chez Macron, la vieillesse est une alliée quand elle est fortunée, et la jeunesse mais c'est un fantasme quand elle est exotique. Je me comprends, mais vous aussi. Et c'est ça qui est sympa avec les auditeurs de Tocsin. Ô vieillesse ennemie, déclamait Corneille. Alors, pas le chanteur de R&B, hein, l'autre. Quoique avec Corneille, l'autre, ça marche aussi. Hein. Oui. Alors, on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient d'Amiens. Alors, attends, petit garçon, je sais des histoires de vieillards magnifiques, des gens d'Ormesson, vieillards fringants, vieillards qui vieillissent comme un grand cru, Manuel de Oliveira. Non, non, ça, Jack n'en fait pas partie, ne fait pas partie de ces histoires-là. La sienne, elle serait plutôt de celle du pouvoir qui colle au palais de l'Élysée, comme un caramel au palais de la mâchoire. En tout cas, il porte bien son prénom. Jack, en anglais, c'est le valet aux cartes, oui, en dessous du roi et de la reine. Et il porte bien son nom aussi, Lang, pour le roi des lèche-bottes de président. Ah si, Clémence, n'est-il pas le parrain artistique de Laurence Ozière, la fille aînée de Brigitte, qui, en sus d'être cardiologue, s'est lancée dans la peinture, et elle a comme parrain, eh bien, Jack Lang, si c'est pas du lèche-boulage, ça. Et Macron le lui rend bien, lui qui l'a convié dans tous ses déplacements à l'étranger, dans toutes les réceptions somptuaires et les visites royales. Oui. Tiens, en parlant de reine, vous savez qu'il fut très très proche de Daniel Mitterrand, à qui il rendit un hommage élogieux à sa mort. Alors, Jack, Daniel, ou l'ivresse de la culture des salons mondains. Ouais, il faut la voir celle-là, Jack, Daniel, Clémence. Je sais que vous ne buvez pas, vous.
Ah bah si, si, mais quand même.
Si, vous l'avez. Alors bon, allez, revenons à notre centaure Kakoschim. Juif alsacien, franc-maçon, épouse juive polonaise et depuis 2013 pourtant président de l'Institut du monde arabe. Et après, on va dire que les Arabes sont antisémites. Non, c'est pas cool. En tout cas, le monde arabe, il l'a dans le sang, dans les veines, dans la veine, notre Jack. Les soirées à la Villa Majorelle de Marrakech avec Pierre Berger ont dû lui donner ce solide bagage. Fabrice Thomas, l'ex-chauffeur esclave sexuel du couple Berger-Saint-Laurent, raconte dans son livre « Pierre Berger se tapait des gamins au Maroc, il était très attiré par les prépubères. » Et Jack, dans tout ça, invité, régulier, témoin de moralité pour les amis sadiques, est toujours là quand ça sent le soufre. Machine à remonter les temps. Oui, l'étang d'eau boueuse, je vous préviens, Clémence. 1977, Jack signe la pétition des 69 intellectuels. Hein. Sartre, Beauvoir, Deleuze, Barthes, Kouchner, Solers. D'abord dans Le Monde, puis dans Libération, pour défendre trois hommes, trois pédophiles incarcérés depuis trois ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de 12 et 13 ans. Trois ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Les enfants étaient consentants. Aujourd'hui, Jack bégaye une vague vision libertaire fautive. En 2021, il osait encore, il y avait une chape de plomb sur la sexualité des adolescents. Je sais, Clémence, Je sais, ne pas juger hier avec les yeux d'aujourd'hui. Alors, constatons seulement qu'il y a eu chez une partie de l'intelligentsia de gauche, ça c'est un pléonasme, une ivresse libertaire qui a frôlé le souffle, et que certains, 50 ans après, veulent encore faire comme si c'était un détail folklorique, une anecdote de salon, un vieux tract mai 68 art un peu jauni. Non, ce n'est pas une anecdote, c'est le signal d'une faillite morale annoncée. 1982 éclate ensuite l'affaire Chorale, ce centre alternatif pour gosses en difficulté, hein, enfants handicapés, placés, violés, et Roger Olyndre, hein, dans une diatribe virulente lors d'une université du FNJ qui lançait « Monsieur Jackland, compromis dans l'affaire des lieux de vie, tenu par les socialistes, lieux de vie appelés Chorale, qu'on m'arrête à la sortie si ce que je dis n'est pas vrai. Là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jackland, et un gosse a été retrouvé mort, sodomisé dans un seau de merde. Que l'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. Je veux que tous les Jacklands de mon pays soient pendus haut et court. » Ah, il n'y a pas à dire, ma petite Clémence. On avait des couilles en ce temps-là. Hein. Oui, c'était le temps béni au FN. C'était le temps où ses fondateurs avaient de la voix. C'était autre chose que les charmeurs du RN. On savait faire de la politique en ce temps-là. Alors, il faut dire peut-être que Roger Olyndre n'avait probablement pas le même conseiller en communication que Jordan Bardella.
Certes, oui.
Résultat, personne n'a arrêté Olyndre, non plus que personne n'a poursuivi Jack Lang.
Et voilà, vous avez entendu le petit sketch comique qui était audacieux, mais qui vous a certainement bien amusé. Et alors, il y a en ce moment quelques bonnes nouvelles, pas seulement la démission de Jack Lang de la présidence de l'Institut du monde arabe, mais vous avez vu que l'enquête sur l'audiovisuel public progresse à grands pas et que tous ces braves gens sont très gênés de dévoiler ou de répondre aux questions de Charles Alloncle sur, sur le niveau de leur rémunération. Un jour ou l'autre, ils vont bien être obligés de répondre à ces questions. Donc, je salue l'efficacité et la pertinence des questions de M. Charles Alloncle à tous ces gens qui semblent, à tous ces journalistes qui semblent rémunérés de façon beaucoup trop large par l'audiovisuel public. Vous aurez remarqué également que sur le continent américain, la droite progresse. Elle a gagné en Argentine avec Javier Milei, le président libertarien. Elle vient de gagner au Costa Rica. Elle a gagné au Honduras, au Salvador, je crois aussi. Et le cas le plus symptomatique est celui du Chili. Il faut dire qu'il n'y a rien de tel pour que la droite arrive au pouvoir que le gouvernement sortant soit de gauche, juste avant. C'est ce qui s'est passé au Chili. Elles ont été gagnées, les élections, par José Antonio Kast. Et s'il a remporté au deuxième tour une victoire très nette, 58%, c'est d'abord en raison du bilan du président sortant, Boric. Explosion de la criminalité au Chili, alors que c'était considéré comme la Suisse de l'Amérique. En particulier, explosion des enlèvements. Augmentation de l'immigration illégale, et en particulier venant de criminels vénézuéliens narcotrafiquants. Promesses sociales de la gauche non tenues par elle. Politique wokiste d'égalité des genres, les Chiliens ont été dégoûtés. Un peu comme nous en ce moment, non ? Et le résultat, c'est qu'ils ont donné une nette majorité à un candidat qui ne revendiquait pas, enfin qui ne reniait pas l'héritage du général Pinochet, figurez-vous. Le prix Nobel de la paix, tout ça, c'est pour le moment assez bien terminé. On voit aussi, d'ailleurs, que Madame Machado a eu le prix Nobel de la paix au Venezuela, alors qu'elle est l'opposante de Maduro au Venezuela. Voilà, ce sont quelques petites bonnes nouvelles que je voulais vous donner. Et maintenant, nous allons passer au feuilleton, une rediffusion du feuilleton Marie-Josette Liégeois. Au revoir à mes auditeurs et au mois de mars prochain.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie. Histoire à la loupe.
Marie-Josette Liégeois venait souvent à Paris alors qu'elle habitait Strasbourg et en avait l'accent lourd alsacien, ce qui ajoutait à son charme, car ses roulages de R ainsi que sa lenteur d'élocution convenaient bien à son allure nonchalante comme à ses formes plantureuses, leur donnaient même un effet de sublimation. Si elle se rendait si souvent dans la capitale, c'était pour administrer ses soins à certains de ses patients, car elle exerçait la profession d'ostéopathe et était très demandée vu le succès de ses techniques. Elle n'aurait pas aimé qu'on dise d'elle qu'elle avait un style et un physique germanique, car nuage gris qui s'élève du passé lointain, sauf qu'on remonte du puits profond d'anciennes générations, les Alsaciens ne veulent pas être confondus avec les Allemands. De loin, il pouvait y avoir ressemblance, mais vue de plus près, elle n'avait nullement la tournure prussienne, faute d'avoir acquis l'austérité spartiate de ces gens-là. Non, elle avait plutôt celle des Rhénans ou des Bavarois, dont elle avait la gourmandise, voire la truculence. Cette gourmandise, elle l'appréciait, et tout à la fois, elle voulait la réprimer, d'une façon ou d'une autre. On verra comment par la suite. Malgré tout, elle adorait s'envoyer régulièrement baba au rhum, feuilletée à la crème pâtissière, religieuse au chocolat. Ce qui n'avait pas manqué, bien sûr, d'accentuer son embonpoint. Mais le résultat de ses excès était plaisant et ne se remarquait pas trop, car elle était de haute taille et avait un physique avantageux, style Magali Noël en blonde ou Sandra Milo en plus grande.
Vous écoutez les histoires à la loupe de Radio Courtoisie. Voici Marie-Josette Liégeois, première partie, sur un récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Un matin, où elle siégeait à la table d'une pâtisserie viennoise de la Petite France et mangeait son gâteau habituel tout en toisant les passants qui marchaient dans la rue et la regardaient furtivement, car elle appréciait le contraste qu'elle suscitait entre la voracité un peu triviale de son engloutissement alimentaire et la désinvolture un peu arrogante de son regard altier et indiscret sur les gens. Elle tomba sur un autre regard tout aussi insistant que le sien, celui d'un homme.
C'est bon.
Lui dit-il ex abrupto alors qu'elle avait des taches de crème sur les bajoux. Marmonna-t-elle de sa bouche obstruée.
Ça donne envie. Venez donc vous asseoir pour goûter.
Une invitation aussi directe, l'homme n'hésita pas une seconde et d'un air narquois et sûr de lui, vint s'asseoir auprès d'elle. Il n'eut pas le temps de héler un garçon pour passer une commande qu'elle lui avait déjà fourré la crème chantilly de son feuilleté en pleine poire. À cette bonne farce, Marie-Jo se mit à rire à gorge déployée. C'est ainsi, sur ces acerbes prémices, qui auguraient bien de leur futur dérapage, qu'ils firent connaissance. Le passant s'appelait Khalil Mahoud, un marchand libanais, teint basané, cheveux ondulés sur le crâne et moustache. Il était venu à Strasbourg pour vendre, espérait-il, plusieurs de ses bijoux précieux à un client exigeant lequel ne se déplaçait jamais. Il avait été séduit par le coup de la crème chantilly, car il s'était dit
« Si elle est aussi comique et festive en toute chose, ça promet un bon petit festin érotique. »
Quant à Marie-Jo, qui cherchait toujours à épater les mecs, elle s'était dit de son côté
« Je vais pouvoir le chahuter un peu ce bronzé, pour voir ce qu'il a dans le caisson. »
Ils causèrent l'un et l'autre en se lançant de temps à autre des vannes ou des plaisanteries. Le courant étant bien passé, malgré ce festival de glorieuses inepties, et le bijoutier n'ayant rien de spécial à faire jusqu'au lendemain, elle lui fit visiter la petite France, ainsi que tout le quartier environnant puisqu'il ne connaissait pas les lieux. Au cours de la promenade, elle lui montra, comme un guide l'aurait fait, les vieilles maisons, les tours du XIVe siècle, les ponts couverts. Et, comme un professeur, raconta les événements passés. La découverte de l'imprimerie par Gutenberg, la construction de la citadelle par Vauban, l'entrée triomphale de Louis XIV à côté de l'évêque Fürstenberg dans la ville. Le baron de Dietrich un siècle plus tard, et les généraux Keller, Kellermann, Rapp, le peintre Gustave Doré. Alors qu'il traversait le parc de l'Orangerie, elle lui dit
« Cet après-midi, il y a un concert ici dans ce kiosque à musique. Ça vous intéresse ?»«
Mosbot, pourquoi pas ?»
Ce sera de la musique folklorique jouée par une fanfare municipale. Et je ferai partie de l'orchestre.
Non, vraiment? De quel instrument jouez-vous? Violon, flûte?
Grosse caisse, caisse claire et cymbales.
Ah, inhabituel pour une dame de faire de la percussion.
Exact, c'est inhabituel, mais j'ai toujours eu envie d'en jouer. C'est mon hobby.
Khalil Mahoud était assez surpris d'imaginer cette belle femme en train de frapper en cadence ces instruments typiquement masculins. Il avait même du mal à y croire, de sorte que sa curiosité en fut des plus stimulées, et qu'il ne manqua pas d'assister à la performance quelques heures plus tard. Marie-Jo avait revêtu l'uniforme de rigueur des membres de la fanfare, veste rouge de cirque à épaulettes et galons brandebourg mordorés, chapeau à pompons, mini-jupe blanche à multiples plis. Les instrumentistes mâles portaient la même veste, mais étaient bien sûr en pantalon noir. Ils commencèrent par une musique militaire célèbre, Alte Kameraden, vieux camarade, où la grosse caisse et la caisse claire ont un rôle majeur dès le début. Ils enchaînèrent avec des marches tyroliennes, des valses et un morceau Kastelruther Tschusenmarsch où la percussionniste devait simultanément rythmer la marche à la grosse caisse et frapper la caisse claire. C'est là que Miss Liégeois se surpassa pour coordonner ses mouvements et fut applaudi. Le bijoutier en fut tout subjugué. Mais comment se fait-il qu'elle y arrive avec tellement de facilité ?
On a l'impression qu'elle a joué ça toute sa vie.
Après le concert, il lui exprima son admiration pour sa virtuosité.
Vous devez avoir répété et rejoué cette marche depuis des années pour y arriver si bien.
Oh non, seulement quelques jours. Il suffit de suivre et de mémoriser la partition.
Ce n'est pourtant pas facile d'actionner les deux instruments en même temps.
Oh, question d'intuition au début, puis d'habitude. C'est comme le massage ostéopathique que je pratique. Au début, on cherche où l'on peut débloquer la vertèbre ou le muscle. Et une fois qu'on a trouvé, on répète inlassablement le geste.
Ah, j'aimerais bien voir ça, Yanni. Mais je n'ai pas des douleurs nécessitant un déblocage.
Pas besoin de douleurs pour faire un massage.
Khalil perçut dans cette réflexion, et surtout dans le ton un peu mielleux avec laquelle elle le proférait, une invitation implicite, une sorte d'ouverture.
« Ma parole, elle me fait du gringue ou je rêve ?»
Ne laissant pas passer l'occasion, il saisit la balle au bond et répliqua immédiatement
« Parce que ça vous arrive de faire des massages purs et simples ?» Non ostéopathique.
Oh, ça m'arrive rarement. Mais ça pourrait m'arriver. Avec vous, par exemple.
Ah, punaise de punaise, ça y est, c'est dans la poche. J'ai quand même du bol. Une sacrée chance. Être dragué comme ça, par une femme si belle. Et qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver ?
Se dit Khalil Mahoud. Quant à la Liégeoise, elle se disait...
Encore un petit effort, et je le ferai entrer dans mes fantasmes, ce bronzé.
Une fois qu'ils furent parvenus à la porte de son immeuble, elle se mit à prendre des précautions de ténébreuse conjuration, lui faisant signe de ne pas faire de bruit en mettant son index en croix devant sa bouche. C'était pas à cause des voisins pour éviter de les incommoder par du bruit, non. C'était pour l'ambiance. S'agissait de le préparer à la bizarrerie qui allait suivre. Une fois dans l'appartement, elle ne le laissa pas suivre le schéma classique et préprogrammé du rapprochement charnel et lui déclara
« Puisque vous avez aimé la grosse caisse, je vais vous apprendre à en jouer. Ça vous dit ?»
Tout lui disait au bijoutier. Il était d'accord pour tout. Et du même avis qu'elle en chaque chose. Une pareille aubaine, ça ne se refusait pas. Seulement voilà, ce qu'elle lui proposa en guise d'enseignement musical et rythmique commença un peu à l'inquiéter, surtout lorsqu'elle lui montra l'engin qu'elle entendait lui confier pour qu'il l'utilisât contre elle, en précisant
Disons que je serai la grosse caisse et vous serez le batteur.
Oh là !
Se dit Mawood.
Ne serais-je pas tombé sur une cinglée ? Ce qu'elle me propose, c'est un peu borderline.
Mais considérant la superbe anatomie de Marie-Jo, qu'elle avait commencé à dévoiler plus avant, considérant le balancement fastueux de son arrière-train, ainsi que le bombage somptueux de son balcon, il éloigna cette réflexion chagrine et préféra se laisser entraîner par ce qu'il voyait plutôt que par ce qu'il pensait. Il n'eut pas à le regretter et devint finalement un adepte fervent des extravagances, pour le moins spéciales, de la thérapeute. Certes, celle-ci commençait par des choses assurément un peu sévères pour elle, mais qui semblaient lui donner entière satisfaction. Pour se terminer, joie qui enflamme le cœur, bouquet final du feu d'artifice, par une réconciliation permettant d'atteindre des sommets. C'était ce qu'elle avait appelé la théorie de la remontada. Lorsque, par la suite, et après plusieurs séances répétées suivant le même scénario, elle avait expliqué sa philosophie du carnaval fornicatoire au pauvre Mawood qui, jusque-là, était loin de se douter de toutes ces étranges subtilités un peu tordues. Lui se serait volontiers contenté de prouver gentiment et classiquement son admiration à la dame. Mais, comme elle insistait sur la façon bien particulière qu'elle avait de procéder, il eut à cœur de se caler dans cette savante mise en scène. Il n'eut pas à le regretter, puisqu'il finit par devenir un adepte fervent de ses extravagances, au point qu'il y participa plus activement, en inventant une formule incantatoire pour entrer dans la cérémonie. S'adressant à la thérapeute, il lui disait
« Il est minuit, docteur Schweitzer. »
C'était le signal. Et aussitôt, Marie-Jo obtempérait et donnait suite à cette mystérieuse affirmation en soulevant lentement sa jupe jusqu'à son nombril pour que Khalil bénéficie d'un accès plus facile à son ventre comme à son derrière. Elle le faisait dans un silence religieux, comme s'il s'agissait d'une liturgie très millimétrée, à laquelle elle se prêtait bien sûr avec ferveur. C'est ainsi que Marie-Josette Liégeois prit l'habitude lors de ses déplacements à Paris d'aller rendre visite à son amant libanais qui l'attendait avec impatience et enthousiasme. Elle ne venait pas dans sa boutique de la rue du Faubourg du Temple, ni dans l'appartement qui le surplombait, car il ne le jugeait pas assez chic pour la recevoir. Il se donnait rendez-vous à l'hôtel d'Isly, rue Jacob, dans le quartier latin, où il pouvait s'adonner en toute discrétion au scénario savamment concocté par l'ostéopathe. Il lui arrivait aussi de la rejoindre quelques jours l'été à Saint-Tropez, où elle passait de courtes vacances avec une bande d'amis strasbourgeois. Il existait là-bas une plage dite de l'Escalet, avec des cabanes de pêcheurs qu'on pouvait louer pour un jour ou pour une semaine. Marie-Jo appréciait bien cet endroit car la crique escarpée rendait l'accès difficile. Et cette difficulté permettait de pratiquer le nudisme, encore que ce fût officiellement interdit. Mais c'est justement cette interdiction qui l'excitait. Elle aimait la braver et s'asseoir dessus, et adorait se balader en tenue d'Ève sur cette plage, s'y montrer à tous, afin d'exhiber sa magnifique plastique dont elle n'était pas peu fière. Surtout quand celle-ci était ornée de quelques marques rouges ou traces violacées d'hématomes, pâles vestiges de ses nuits torrides. Et après de telles provocations, d'y recruter de nouveaux amants susceptibles d'adopter ses pratiques. Les bleus qu'elle arborait crânement lui servaient même de prétexte à conversation. C'était d'un abordage facile, le garçon l'interrogeait sur le motif de leur présence sur sa peau et elle sortait le poteau rose en désignant le coupable d'un index vengeur.
« C'est lui !»
Mais en donnant une précision curieuse du genre
« Il n'a fait qu'exécuter mes ordres. »
Ou
« Il m'a fait une belle décoration corporelle, vous ne trouvez pas ?»
Ou encore
« J'adore quand c'est bien rouge. »
Et là, de deux choses l'une. Ou bien le gus questionneur repartait intimidé, penaud ou dégoûté. Ou bien ça l'intéressait. Dans ce dernier cas, elle s'attachait à l'attirer dans ses filets pour un approfondissement plus sérieux du dossier. De sorte qu'au bout d'un certain nombre de saisons, la bande s'était étoffée de pas mal d'obsédés ou de gens étranges un peu allumés, garçons ou filles, qui s'étaient greffés sur le noyau initial. Khalil, en frayant avec cette faune que Marie-Jo lui avait présentée, se demandait parfois s'il avait bien fait de poursuivre cette liaison avec celle qu'il dut finalement se résoudre à qualifier de nymphomane. Anecdote par-ci, rumeur par-là au sein de la bande, il en apprit de plus en plus, et des vertes et des pas mûres, susceptibles de le refroidir, punaise. Mais il repensait alors à sa suprême beauté, à la fanfare municipale où elle régnait, et surtout à ses exceptionnels talents comiques et provocateurs, et il avalait tout de même la couleuvre. Parmi les habitués de la bande, il y en avait un qui émergeait du lot. Il faisait tache parce qu'il n'était pas du même milieu. C'était en effet le tenancier d'un camping qui se trouvait à proximité des cabanes de plage. C'est lui qui avait trouvé ces cabanes à louer aux Strasbourgeois et ils avaient sympathisé. Un petit gros chauve à la voix criarde de Fauchet, qui s'appelait Joe. Souvent, il portait un béret basque pour couvrir sa calvitie. Et c'était curieux de le voir en maillot de bain avec son béret. Il était dépourvu d'éducation. Pourtant, même s'il était rusto et manquait de manières, la ruse lui tenait lieu d'intelligence. Il savait voir les failles des gens et saisir les opportunités des moments. Sa façon de se comporter avec la liégeoise, son ton patelin, ses rires gras et insistants, ses tactiles approches lui donnant l'accolade par-ci ou la touchant furtivement par-là pour s'en éloigner aussitôt, en feignant d'être gêné, tout laissa penser à Mahwood qu'il l'avait connu bibliquement autrefois. Et peut-être même encore aujourd'hui, et qu'il lui jouait une sorte de rôle sur catalogue. Ce qui agaçait Mahwood, c'était pas tellement qu'il ait été son amant, car il était loin d'être le seul. C'était plutôt ce petit jeu pré-programmé qui lui apparaissait comme une attitude convenue. Il la narguait, mais un peu comme si elle le lui avait demandé. Aussi, il ne put se retenir de lui dire
Comment as-tu pu accepter avec un pareil goujat ? Vous venez d'entendre le récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon, première partie. Rendez-vous vendredi prochain pour la suite et la fin des aventures de Marie-Josette Liégeois. Histoire à la loupe.
Vous venez d'entendre le Libre Journal. Il était une fois dirigé par Patrick Simon, diffusé sur Radio Courtoisie vendredi 13 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Jocelyn et Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.